Je vous le disais, pour parler de tourisme, je reçois ce midi Michel Monvoisin. Bonjour.
Bonjour, bonjour tout le monde.
Alors, on vient de l'entendre, ce nombre de célébrités qui viennent en Polynésie, c'est évidemment une bonne vitrine pour la destination. Est-ce que, pour vous, ça veut dire aussi que le tourisme se porte bien aujourd'hui?
Je ne sais pas s'il faut faire une corrélation. Maintenant, c'est sûr que les réseaux sociaux et l'image que nous apportent ces visites de stars, elle ne peut être que bénéfique. Je crois que le conseiller de la ministre que vous avez interviewé l'a bien dit. En plus, c'est gratuit. Donc on peut que s'en féliciter. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait le légendaire hôtel Bora Bora qui accueillait aussi beaucoup de stars, surtout de Hollywood. La différence, c'est vraiment les réseaux sociaux. Aujourd'hui, ça s'évite. Et on peut remercier au passage, par contre, le président Obama, parce que depuis qu'il est venu, moi j'étais aux États-Unis après, où j'étais à l'Assemblée Générale de l'IATA, c'était sur toutes les lèvres. Et bon, la Polynésie et le Brando, c'est the place to be.
Ouais, ça fait beaucoup de buzz après son passage, c'est sûr. Ce tourisme de luxe à Bora Bora, à Tetiaroa, avec le Brando aujourd'hui, c'est toujours l'une des cibles principales de la stratégie touristique ici en Polynésie?
Déjà, on s'est pas réveillé un matin en se disant on va tirer les stars. Il y a une démarche qui a été entreprise, qu'on a présentée, qui a fait quand même pas mal de l'objet de pas mal de présentations sur aux médias, qui a été entreprise il y a à peu près 4 ans par Tahiti Tourisme. On a commencé par repenser la marque, parce qu'une marque, faut une marque. Je veux dire, on le voit bien aujourd'hui, la Polynésie est un produit comme peut l'être une boisson, donc une marque avec une identité. Ça a été le premier travail, une identité qui puisse se vendre, se décliner sur tous les marchés. Ensuite, on a entamé toute une série d'études et d'analyses avec des interviews dans tous les pays, enfin nos pays sources, les principaux émetteurs
de marchés émetteurs.
À partir de là, on a essayé de définir qui était notre client type et on est tombé sur, on a cerné celui qu'on a appelé The Descending Explorer.
Ça, c'est le cœur de cible, c'est ça?
Le cœur de cible.
Et alors, il ressemble à quoi ce client type de ce vacancier type polynésien, en fait, quoi, en Polynésie?
Alors, il ressemble à un homme ou femme mariée, couple, 2 enfants, avec des revenus à peu près supérieurs à 200 000 dollars par an. Alors, des gens qui prennent peu de vacances, mais lorsqu'ils prennent des vacances, ils veulent aller dans des destinations. Bien sûr, des destinations attrayantes, mais des destinations où ils sont au contact de la population, c'est là où ils veulent découvrir. Alors, ils veulent de l'aventure, mais en même temps, ils veulent du confort. C'est-à-dire l'aventure, le contact, la population, l'authenticité, mais un wifi qui marche. Parce que, bon, souvent, ce sont soit des cadres supérieurs, soit des chefs d'entreprise, PME, voire des entreprises plus importantes. Et donc, ils ont quand même besoin de garder un lien. Et puis, comme vous l'avez noté pour les stars, les réseaux sociaux, ça marche pas que pour les stars, ça marche un peu pour tout le monde. Donc ils aiment bien prendre le petit selfie ou la photo en arrivant et puis la poster tout de suite sur leur réseau préféré.
Donc, où ils sont. Donc ce cœur de cible, c'est quand même plutôt des personnes qui sont aisées, riches, voire on va dire des classes moyennes hautes en fait.
Oui, bien sûr. Aujourd'hui, la Polynésie, on le voit par rapport au panier moyen et aux dépenses touristiques par rapport au nombre de touristes. On a des comparatifs sur la région et c'est vrai qu'on est on est dans le haut de l'affiche.
Alors sur la provenance de ces touristes, sur les marchés, les cibles fortes, c'est toujours un petit peu les mêmes, c'est la métropole et les États-Unis, c'est ça?
Alors, le premier marché, c'est l'Amérique du Nord. C'est à peu près 40% de nos visiteurs proviennent de ce marché. Les Français arrivent en deuxième position, à peu près 20%, entre 19 et 20.
Alors ça, c'est la cible principale. Derrière, est-ce que le marché du Pacifique, on en parle un petit peu, alors il est sûrement moins important, mais je crois qu'il progresse un peu?
Il a bien démarré cette année, notamment. Alors l'Australie et la Nouvelle-Zélande, sur 2017, ont bien repris. Alors c'est lié aussi souvent aux conjonctures économiques de ces pays. Donc l'Australie est un gros fournisseur de matières premières, donc ce sont des cours, on a plus ou moins de touristes. Mais c'est vrai que c'est des marchés qui ont repris, mais c'est quand même des marchés qui sont pas au niveau aujourd'hui... Pour nous, le potentiel n'est pas le même que les États-Unis ou l'Asie.
L'Asie, justement, avec le marché chinois, on en parle énormément. On a eu un projet qui a été évoqué de ligne directe entre la Chine et la Polynésie, dont on entend un peu moins parler. Il représente quoi, ce marché des touristes chinois, sur les touristes qui viennent en Polynésie?
On sait que la Chine, c'est un potentiel énorme. Il y a plus de 100 millions de Chinois qui voyagent. Donc là-dessus, nous, on a commencé par travailler directement avec des... Alors là, je parle plutôt avec la casquette Air Tahiti Nui, avec des gros tours opérateurs chinois sur des charters. C'est ce qu'ils ont dit. Quand on les a rencontrés, les Chinois, ils nous ont dit, commencez par des charters. Le jour où les charters sont bien établis, vous pourrez penser à des lignes directes. Bon, le marché chinois, c'était une croissance forte pendant ces 4 dernières années. On a constaté un ralentissement en 2017. Mais bon, c'est plus lié, il nous a manqué les 1200 Chinois qui nous a manqué en début d'année, les discussions qu'on a eues avec Kaisa, enfin, notre partenaire, un de nos gros partenaires qui nous affrète généralement les avions, venait du fait, ils nous ont annoncé ne pas avoir trouvé suffisamment de chambres. Donc ils ont réduit de 6 à 2 charters. Bon après, on n'a pas forcément creusé non plus, puisqu'ils ont géré, nous on a fourni l'avion. Donc ils ont géré de A à Z, les réservations de chambres, les activités annexes, tout ça c'était géré, c'est eux qui commercialisaient en direct à leurs clients.
Alors ça c'est un petit peu votre cheval de bataille, en tout cas on vous entend souvent parler de ce manque de chambres en Polynésie. Ça veut dire quoi aujourd'hui? Les hôtels sont remplis et il faut construire plus?
Oui, enfin c'est... Alors c'est vrai que je me suis beaucoup exprimé sur le sujet, bon je veux pas non plus faire de la redite et rabâcher tout le temps, on sait, il est identifié, on se voit régulièrement avec les hôteliers. Beaucoup d'hôteliers ont fait des efforts ces dernières années pour augmenter en qualité. Il y a eu des réfections d'hôtels, mais on sait aujourd'hui, on a d'abord une problématique de saisonnalité. Donc, on arrive, alors je vois sur 2016, on était pratiquement à 70% de remplissage, ce qui est beaucoup. Alors, ça veut dire qu'après, c'est une moyenne. Alors, si on va sur l'autre saison, bien sûr, ces chiffres remontent beaucoup plus, remontent d'une manière forte. On essaye aujourd'hui, on sait traditionnellement ce qu'il nous reste à vendre, c'est souvent la période janvier à mars. Donc on a fait des tentatives cette année, ATN avait mis une troisième fréquence sur le Japon. Ça n'a pas, on n'a pas eu les résultats escomptés, donc là on va essayer effectivement de le revoir autrement, avec peut-être plus de promotion sur la basse saison, parce que sur la basse saison, janvier, février, mars, c'est plutôt l'Asie. L'Asie et un peu également les marchés dont vous parliez précédemment, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Parce que bon, bah, traditionnellement, ces mois-là, l'Amérique, la France, il y a moins de voyageurs.
Merci beaucoup Michel Monvoisin. On va justement parler de cette question de la fréquentation touristique après une courte pause et on se retrouve pour la suite de notre interview juste après.
Radio 1, premier sur l'info, grand format.
Et on prend ce journal grand format de la rédaction avec notre invité, le président de Tahiti Tourisme et PDG d'ATN, Michel Monvoisin. Et on va s'intéresser plus précisément aux chiffres de la fréquentation touristique. Valentine Bluet vient de nous rejoindre en plateau. C'est une rengaine bien connue. Le tourisme, ce n'est plus ce que c'était. Le fameux âge d'or du tourisme en Polynésie est derrière nous. Mais est-ce qu'il y a vraiment eu un âge d'or du tourisme au Fénois et quand, Valentine?
Eh bien, si l'on s'appuie strictement sur les chiffres de la fréquentation touristique, on peut dire que le tourisme en Polynésie se porte aujourd'hui plutôt bien. Pourquoi? Eh bien d'abord parce que la fréquentation touristique progresse durablement depuis environ 6 ans, une progression de 4% par an, ce qui fait environ 7000 touristes supplémentaires chaque année. Et sur une année, on était à 192 000 touristes en 2016. Ce n'est pas encore la fameuse barre des 200 000 touristes, mais est-ce que c'est moins bien que ces deux dernières années? Eh bien en moyenne oui, en fait le Fénois a connu un fort essor touristique dans les années 90, avant une baisse dans les années 2000, mais il faut relativiser parce que même pendant cet âge d'or du tourisme dans les années 90, il y avait globalement moins de touristes qu'aujourd'hui. En fait, en 10 ans, le premier pic avait été atteint en 95 avec 172 000 touristes, soit 20 000 de moins que l'année dernière. Et le deuxième pic avait été atteint en 2000 avec 233 000 touristes, et ça, c'est le record absolu de la Polynésie. Après 2000, avec le 11 septembre et puis la crise de 2008, on était tombé au plus bas en 2010, jusqu'à 154 000 touristes, et c'est depuis cette date qu'on ne cesse de remonter.
Merci Valentine. Michel Monvoisin, est-ce qu'on sait pourquoi est-ce que ces chiffres du tourisme progressent depuis 6 ans en Polynésie? Qu'est-ce qui a fait que ça a baissé pendant les années 2000 et que ça a repris depuis ces 6 dernières années?
J'aurais envie de dire, c'est pourquoi ça augmente, c'est le travail de toutes les équipes au quotidien qui commencent à payer enfin. Bon, moi je ne veux pas trop revenir sur le passé, mais bon, quand... Alors, il y a des analyses qui sont connues. Lorsqu'on a fait, on a eu notre année record, il y avait plus de chambres et plus de bateaux. Pourquoi on a chuté? Il y a eu, ça a été conjoncturel et structurel à la fois. Bon, mais on a eu le 11 septembre. Ensuite, il y a eu effectivement la crise de 2008 qui a fortement touché notre premier marché, marché nord-américain. Bon, on sait aussi qu'on a eu une période d'instabilité. Quand vous changez, il y a pas que le gouvernement. Quand les gouvernements changent, les gouvernances changent.
Et puis les services changent aussi. Le tourisme.
Donc, avoir une stratégie à long terme, c'est compliqué quand on change régulièrement les dirigeants. Aujourd'hui, ce que je vous dis, vous m'interrogez sur Tahiti Tourisme, ben, les actions qui sont menées par Tahiti Tourisme, c'est un travail qui date de 4 ans et qui se met en œuvre petit à petit et qui progresse dans le temps. Aujourd'hui, on est dans une phase de communication qui a été établi par des appels d'offres sur la base des études qu'on a menées sur notre cible et notre cœur de cible. On essaye de se professionnaliser comme le font toutes les destinations touristiques dans le monde, enfin les destinations majeures.
Alors sur un plus petit, sur un court terme, les chiffres sont un peu moins bons depuis le début de l'année. En tout cas, le premier trimestre a été un peu en repli, ça vous l'expliquez ?
Oui, on est en train de le rattraper d'ailleurs. Le premier trimestre, je vous rappellerai que 2017, et ça avait été annoncé par la météo, il faut leur rendre grâce pour une fois par Météo France, que 2017 serait, avec le phénomène La Niña, serait extrêmement pluvieux. On a eu des intempéries, la piste a fermé 2 mois à 1 mois, c'est quand même un peu fort, hein, la piste de phare qui a fermé, avec quelques mouvements de grève qui nous ont pas aidés non plus. Bon, là sur l'été, on marche bien, et sur la fin de l'année, les engagements sont prometteurs. Donc je pense qu'on va rattraper, mais on sait qu'on a une capacité, de toute manière aujourd'hui, en l'état, on tape autour des 200 000 touristes par an. Et j'espère que c'est pas l'âge d'or, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a une demande qui est supérieure à notre offre aujourd'hui. La demande est là, on n'arrive pas à la servir, mais la demande est là.
Alors juste un mot sur l'impact de la grève, puisque vous en parliez. D'après les derniers chiffres de l'ISPF, il n'y a pas eu vraiment d'impact négatif sur cette grève-là. Est-ce que on a parlé d'un chiffrage à un moment qui devait être fait par les professionnels? Ça, je parle peut-être plus vous en tant que PDG d'ATN. Vous avez réussi à chiffrer le manque à gagner pour la compagnie?
On est en cours de finalisation, bien sûr qu'on le fait, mais alors après chaque société voit midi à sa porte, mais nous, moi je l'avais annoncé à DT, au moment au cœur de la grève d'ailleurs, j'étais intervenu à la télé, j'avais annoncé à DT que je leur présenterai la facture d'ATN, on est en train de la finaliser, on va lui présenter.
Alors sur les chiffres de la fréquentation touristique, pour y revenir, vous parliez justement de la demande. L'objectif réaliste, c'est quoi ? Je m'en souviens des propositions d'un ancien ministre du tourisme, Steve Wynne, pour pas le nommer, avec 500 000 touristes par an. C'est quelque chose de réaliste ou est-ce que vous vous êtes fixé d'autres objectifs qu'on pourrait atteindre sur ces prochaines années ?
Ah, je veux pas commencer à rentrer dans des débats de chiffres et critiquer. Si on veut se fixer on peut toujours se fixer un chiffre. Mais je crois qu'à partir de ce chiffre, il faut se fixer aussi d'autres objectifs. Si on veut doubler le nombre de touristes, c'est pas que l'aérien, c'est pas que les hôtels, c'est l'ensemble, c'est les infrastructures. L'aéroport, à 500 000 touristes, honnêtement, aujourd'hui, l'aéroport de Teitifaha, à mon avis, et à mon sens, n'est pas capable d'accueillir 500 000 touristes par an. Il y a quand même de gros travaux à prévoir sur l'aéroport, et pas que l'aéroport. Ensuite, il faut les transporter, il faut du réceptif. C'est un ensemble. Et dans ces cas-là, mais ça ne peut être en tout cas qu'une stratégie à long terme. On peut pas dire dans 2 ans on fait 500 000 touristes, c'est impossible.
Alors il y a quelque chose qui draine de plus en plus de touristes, on a l'impression ces dernières années, c'est les croisiéristes, on voit de plus en plus de paquebots venir ici. C'est une politique du tourisme ici en Polynésie d'essayer d'attirer plus ces croisiéristes.
Bien sûr, alors ça c'est un autre marché. Alors dans le marché de la croisière, il y a 2 types de touristes. C'est ce que différencie bien l'ISPF. Il y a le touriste, celui qui vient en avion, qui passe des nuits d'hôtel et qui embarque sur des navires qui ont des têtes de pont. Et il y a le croisiériste, qui ne fait que passer, qui ne dort pas en Polynésie.
C'est Paranui ou Paul Gauguin?
Non, celui-là, c'est celui qui est basé ici. Alors, ceux qui ne font que passer, c'est toutes les... Bah, demain, il y a Star Princess qui arrive avec 2800 passagers. Donc, sur ce marché-là, c'est un marché... De toute façon, le marché de la croisière, c'est un marché qui connaît une croissance de 20% par an, à peu près. Donc, c'est bien...
Dans le monde.
Voilà, c'est bien... Et c'est compliqué à la fois, bon, parce que toutes les destinations s'arrachent les croisières. Et pour construire un bateau, il y a beaucoup de bateaux en construction, mais alors un bateau, c'est encore plus compliqué qu'un avion. C'est des délais de construction assez longs, donc on essaye de se placer, sachant qu'en face, il y a la Chine qui s'ouvre. Nous, en plus, il y a 2 types de bateaux maintenant. Il y a des bateaux, la plupart des bateaux qui sont en construction. Bon, je vous disais, c'est un marché qui est en pleine croissance. Ce sont des bateaux entre 4 et 6 000 passagers. Ce qui est trop gros. Enfin, pour de baser les inscriptions en Polynésie, c'est un peu gros pour nous. Nous, on se tape sur des bateaux de 300 à 1500 passagers. Ce qui est l'idéal. Alors ça, c'est des produits souvent d'excursion ou d'aventure, de découverte. C'est souvent du produit haut de gamme en plus. Alors ces produits-là sont très très demandés. Les compagnies les placent beaucoup parce que c'est des destinations à la mode. C'est chez les pingouins, on est concurrencé par les pingouins. C'est un peu comme ça. Ils vont souvent en Alaska, en Antarctique ou en Arctique, suivant la saison. Et donc on essaye de capter un peu ces bateaux. quand ils peuvent plus naviguer dans des eaux un peu trop froides, trop encombrées. Donc c'est un marché qui est très intéressant, sur lequel on se bat beaucoup. On peut se féliciter parce que il est également en plein développement et en pleine croissance. Bon, après cette année là encore 2017, c'est un peu particulier, c'est un peu lié aussi à la baisse de la fréquentation. C'est que le Paul Gauguin est parti en carénage, donc le Paul Gauguin qui s'en va en carénage, mais ça fait quand même beaucoup de passagers et beaucoup de touristes en moins. Mais bon, carénage, c'est quelque chose d'obligatoire sur un bateau. Donc non, mais c'est un marché sur lequel on est très attentif et on investit. Ben, vous avez vu, le port autonome va démarrer la construction, donc on a déménagé Tahiti Tourisme pour laisser la place à un terminal croisière. C'est plus un terminal croisière parce qu'on avait un problème ici de turnover, en fait, de check-in et check-out. C'est-à-dire quand il fallait débarquer un bateau, il faut que les autres passagers montent et c'était un peu compliqué. C'est toujours un peu compliqué. Et donc ce terminal croisière va nous faire le plus grand bien.
Et bienvenue. Pour finir cette interview sur les touristes terrestres, il y a une question qui revient, enfin un sujet qui revient très souvent, c'est celui du prix des billets d'avion qu'on trouve très cher ici en Polynésie. Ce prix, pour vous, il est incompressible ou est-ce que il peut évoluer dans les années à venir?
Ah, vous savez, le prix, bon, c'est vrai qu'on en parle beaucoup en Polynésie, c'est qu'il est tout à fait compréhensible parce qu'on est une île et les gens veulent sortir. Sur le marché touristique, on nous en parle beaucoup moins. Je vais même vous faire bondir, et même aux États-Unis, on m'a même dit qu'on devrait l'augmenter pour être plus sélectif. Vous voyez, on m'a parlé d'augmenter les prix, comme ça on prendra encore des gens encore plus riches et plus sélectifs. Bien entendu qu'on va pas le faire. Ceci étant, je vous disais, je reviens de l'IATA où on a pu aborder le sujet des prix des billets d'avion. Ils ont augmenté 3,5% partout dans le monde. En Polynésie, on les a pas augmentés. Ça fait 5 ans qu'on n'a pas passé d'inflation, on les a même plutôt diminués. Ça nous a pas amené plus de passagers.
Donc ça n'est pas un problème pour le tourisme.
Je dis pas ça, mais je dis que dans ce qu'il y a dans le prix du billet d'avion aujourd'hui, il y a plusieurs éléments. On se focalise toujours sur le carburant. Il n'y a pas que le carburant. Il y a le carburant, il y a le personnel, il y a la sécurité. Et effectivement, les compagnies aériennes s'alarment que depuis des années, il y a de l'inflation sur la sécurité, que c'est les compagnies aériennes qui le payent et donc les passagers auprès des billets d'avion. On nous impose des contrôles de plus en plus draconiens. On a un sujet sur la table qui est l'interdiction. On ne sait pas si ça va se faire ou pas, peut-être des laptops, enfin des tablettes à bord. Donc il y a un débat où l'IATA s'implique fortement, mais si on le fait, ça veut dire, si on veut en être exonéré, ça veut dire qu'il faudra faire des contrôles, investir dans le matériel de contrôle qui paye très cher, qui coûte très cher, les compagnies devront investir. C'est tout ça qui coûte. Alors, tant mieux, le transport aérien de plus en plus c'est sécuritaire, mais la sécurité a un coût. Et donc le transport, vous savez, les marges, l'IATA, les marges des compagnies aériennes en 2016, la moyenne c'était 4,5%. Quelle industrie marge à 4,5%?
Merci beaucoup Michel Monvoisin, on va s'arrêter ici. Juste une petite question pour terminer, les nouveaux appareils d'ATN arrivent à quelle période?
C'est toujours prévu pour fin octobre 2018, le premier.
Ce sera donc l'année prochaine. Merci Michel Monvoisin d'accepter notre invitation ce midi.
Bon, merci.